Virginie.
Eh bien, vous écoutez ici. Il est 13h, on vous aime.
Vous êtes très ambitieuse, je trouve. Rendez-vous demain pour une nouvelle manche. Voici les infos. Wendy Bouchard.
Ici, avec Wendy Bouchard. Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Ma France. Une France des transporteurs routiers qui continue de se faire entendre face au prix des carburants. Des millions de salariés sont concernés par ces hausses. Certaines entreprises jouent la carte du télétravail et on continue de vous guider pour trouver la station-service la moins chère près de chez vous. Une station qui ne soit pas à sec. Nous sommes en Indre-et-Loire dans ce journal. Une France de l'éducation nationale qui s'inquiète aussi. À Paris, le scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire est loin d'être géré et partout en France, les enseignants craignent des suppressions de postes. Les élus, comme les parents d'élèves, redoutent des fermetures de classes. Illustration à suivre en Alsace. Nous revenons aussi sur l'arrivée au Sénat du texte visant à interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Mais aussi sur l'épopée de ce TGV Nice-Paris bloqué pendant 8 heures à cause d'un accident voyageur à Marseille. Le train n'est jamais arrivé à destination, il a rebroussé chemin. Et puis 13h15, on parle de votre patrimoine local. Vos églises, vos monuments aux morts, vos moulins, vos châteaux tout près de chez vous. Un trésor, mais menacé. Une étude fait le point sur les attentes des habitants sur ce sujet. J'accueille Stéphane Bern qui a largement contribué à parler de ce sujet. Mais avant de dérouler l'actualité économique et sociale, revenons sur l'impressionnant phénomène Céline Dion qui a tenu une partie de la France en éveil hier soir. Après des années d'absence à un corps qu'on pensait affaibli par la maladie, la star internationale a orchestré son retour dans une vidéo enregistrée pour son public français avec un renfort de messages et de musique projeté sur la Tour Eiffel.
Le ciel bleu sur nous peut.
Une communication à la hauteur de son talent et de sa renommée. Céline Dion, le jour de ses 58 ans, a donc annoncé une série de concerts à l'Accor Défense Arena. Ce sera à Paris du 12 septembre au 14 octobre avec ce message rempli d'émotion.
Je suis tellement contente. Je me sens bien, je me porte super excitée, évidemment aussi un peu nerveuse, bien sûr, mais surtout... Je suis tellement reconnaissante envers vous tous. J'ai vraiment trop hâte de vous revoir.
Céline Dion, et quelques secondes, bonjour Nicolas Joly.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Quelques secondes après cette annonce, des millions de fans se sont littéralement rués sur tous les sites dédiés pour la prévente des places.
Et en quelques minutes, le site était évidemment déjà saturé, il fallait patienter pour s'inscrire. Une longue file d'attente qui rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont essayé d'avoir des places pour Oasis il y a 2 ans. Christelle a réussi à se connecter hier soir.
Ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a un moment donné, voilà, par rapport à ma démarche qui a été assez rapide, on m'a demandé, mon numéro de carte bancaire, ne sachant pas le quoi, le pourquoi et combien. Donc, j'ai préféré arrêter, le scrimer et puis de le refaire ultérieurement pour me renseigner si c'est normal de donner son numéro de carte bancaire.
C'était sur le site officiel de Céline Dion. Hein.
Tout à fait. C'est effectivement un détail qui a chiffonné pas mal de monde, mais c'est normal, pas de panique. De donner son numéro de carte bancaire. Christelle va donc réessayer tout à l'heure.
J'espère que tout le monde pourra y aller. Et puis bon, si c'est pas possible, voilà, que le maximum de personnes puissent partager pour les autres éventuellement. Voilà, bon concert à tout le monde en tout cas.
On lui souhaite de faire partie des 450 000 chanceux. Et oui, la Défense Arena, c'est 45 000 places. Et 10 concerts sont annoncés. Le calcul est simple, mais il faudra être sur le coup.
Il faut être Céline Dion quand même pour faire 10 fois, justement, au moins l'Accor Défense Arena. Alors, vous le disiez, Nicolas, on peut encore s'inscrire jusqu'au 2 avril à 19h exactement. Quelle est la marche à suivre?
Il faut aller sur le site officiel CélineDion.com, hein, pas un autre. Cliquez sur la page dédiée au concert parisien, puis s'inscrire à la prévente. Vous êtes redirigé sur le site d'AXS, c'est le vendeur de billets. Vous devez alors créer un compte, entrer votre numéro de carte bleue, comme on le disait, et demander une réservation. Attention, vos billets ne sont pas encore garantis à cette étape. Il y a ensuite un tirage au sort pour vous donner ou pas l'accès à la prévente artiste, qui aura donc lieu le 7 avril à 10h sur 3 sites AXS, Ticketmaster et Fnac Spectacle. Vous recevrez un mail entre le 6 et le 9 avril pour vous indiquer sur quel site vous connectez.
C'est un jeu de piste en fait. Hein.
Complètement. Oui. Chaque personne pourra prendre 6 billets maximum. Notez-le bien, une prévente exclusive aura aussi lieu pour les détenteurs de cartes bancaires Visa. C'est un partenariat le 8 avril. Et une dernière prévente, Paris La Défense Arena à Ticketmaster, prévue le 9 avril à 10h. Enfin, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Défense Arena pour cette prévente. Tirage au sort le 6 avril. Vous recevrez un code d'accès le 8. Et puis, pour terminer, la vente générale pour toutes celles et ceux qui n'auront pas eu la possibilité de s'inscrire en prévente, ce sera le 10 avril à partir de 10h sans inscription préalable. Là, par contre, ça risque d'être la foire d'empoigne.
Costaud, vous avez fait quoi, vous, Nicolas, hier soir?
Moi, j'ai rien fait.
Vous avez regardé?
J'ai abandonné tout de suite, déjà frustré d'Oasis la dernière fois.
Ah bon, d'accord. Bah voilà, écoutez. En tout cas, vous avez trouvé bien des Français qui ont tenté et on leur souhaite bonne chance. Je vais me souhaiter bonne chance à moi-même aussi parce que je l'ai fait. Je l'ai tenté, la prévente. Merci beaucoup, Nicolas Joly. Merci. Il est 13h05 et face à la flambée des prix du carburant, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, appelle à une aide ciblée pour les salariés les plus fragilisés par ces hausses. Sophie Binet, pour la CGT, plaide de son côté ce matin sur France Info pour un blocage des prix de l'énergie.
Ça fait 3 semaines qu'on demande au ministre de l'économie d'organiser une table ronde à Bercy avec les organisations syndicales et les organisations patronales pour faire le point sur la situation pour les salariés. Encore une fois, Bercy se contente de parler aux patrons et ne s'adresse jamais aux travailleurs et aux travailleuses. La première mesure qu'il faut mettre en place, c'est un blocage des prix de l'énergie parce que cette augmentation des prix des carburants, elle est injustifiée, c'est de la pure spéculation. Évidemment, le but, c'est qu'ils vendent pas à perte et donc il faut pas seulement plafonner le prix de vente aux consommateurs, mais plafonner aussi le prix de vente en gros des pétroliers vers les distributeurs. Le problème, c'est pas les marges dans la distribution, le problème, c'est les marges des pétroliers.
Sophie Binet pour la CGT. Ces dernières heures, les pénuries dans les stations-service se sont multipliées. 800 d'entre elles en France sont à sec. D'autres commencent à rationner les carburants. Alors, on vous renvoie sur ici.fr ou sur notre application ici pour continuer à trouver la station-service la moins chère près de chez vous grâce à notre carte interactive. Et une incertitude qui plane toujours à l'heure où nous parlons sur le maintien des prix plafonnés dans les stations Total Énergie, ce qui provoque le rush à la pompe. Depuis 3 jours, il est impossible, par exemple, de trouver du gasoil en Indre-et-Loire dans les stations du groupe. C'est un reportage d'Adrien Bossard.
Premier essai chez Total à Rochecorbon.
Vous n'avez plus de gasoil du tout ?
Non.
Nouvelle tentative à Saint-Pierre-des-Corps.
Vous n'avez pas de gasoil ici ? Non.
Chou blanc aussi. En fait, hormis sur autoroute, plus aucune station-service Total n'a de gasoil depuis ce week-end en Touraine. Avec des prix plafonnés à 2,09€ le litre, soit le tarif le moins cher ces derniers temps, tout le monde s'est rué dessus les jours précédents.
Je suis passé devant plusieurs stations Total autour de chez moi et à chaque fois, il n'y a plus rien. Donc ça fait suer, pour être poli.
Julie s'est donc rabattue sur une grande surface de Tours où il faut payer 15 à 20 centimes de plus en moyenne. Là, en l'occurrence, 2,26€ le litre.
Je suis psychologue à domicile, en fait. Je fais tous mes rendez-vous chez les gens. Par semaine, je fais 4 ou 500 bornes. J'avoue que ça me stresse un peu la situation actuelle. J'espère que je ne vais pas être en difficulté pour exercer mon métier, quoi. Donc, tant pis pour moi.
Et au moment de payer, forcément, beaucoup font la moue, à l'image de Maurice.
Presque 61€ pour 27 litres. Énorme, énorme. On subit, c'est tout.
Alors, la plupart des automobilistes, comme Mathéo, ne remplissent le réservoir qu'à moitié, dans l'hypothèse où ils trouveront moins cher ailleurs plus tard.
Je fais pas le plein, parce que je vais partir après pour le taf dans le sud, je prends pas cette voiture-là, donc je vais attendre mon retour en espérant que ça soit redescendu.
Mais ce n'est pas garanti. D'ailleurs, chez Total, les salariés des stations-service nous disent ne pas savoir quand ils seront réapprovisionnés en gasoil.
Et dans ce contexte économique, les transporteurs routiers continuent leurs actions. À Nantes, une trentaine de camions ont ralenti ce matin la circulation sur le périphérique. Mobilisation qui doit se poursuivre toute la journée. Sur la rocade de Bordeaux, les camions ont roulé au ralenti, comme sur l'A10 en Charente-Maritime. Quant à Rodez, une opération escargot, là encore, est organisée depuis ce matin, dans le centre-ville. À Paris, maintenant, à peine installé, le nouveau maire affronte la tempête des scandales du périscolaire. Hier, Emmanuel Grégoire a rencontré les collectifs MeToo École et SOS Périscolaire après l'envoi d'un courrier par plus de 700 parents des 7e et 15e arrondissements de Paris dans des écoles où des faits graves sur des enfants ont été recensés. Des parents d'une vingtaine d'écoles du 11e arrondissement lui ont aussi envoyé des propositions de mesures. Face aux révélations d'agressions sexuelles commises par des animateurs du périscolaire, le maire promet des annonces pour la fin de semaine. En attendant, Marie Boueda, les réunions se multiplient dans les différentes écoles publiques et les parents d'élèves, en revanche, ne voient aucun changement.
Et non, ils disent qu'ils sont dépités. C'est ce que nous dit en tout cas Lina, maman d'enfants de 4 et 9 ans. Elle représente une école du 11e dont elle ne veut pas donner le nom. C'est l'arrondissement où le plus de cas ont été recensés.
On est déçus pour l'instant. Il y a une inquiétude et une défiance qui sont durablement ancrées. Notre premier cas remonte quand même à avril dernier. Ça fait un an. En un an, rien n'a bougé. On ne peut pas dire que le chantier du périscolaire soit réellement en marche.
Les opérations de communication, ça oui, pense la maman. Mais alors qu'on est au quatrième cas dans son école, on écoute plus les enfants, certes, mais il n'y a toujours pas de réel contrôle. Le mal-être s'installe, les arrêts maladie du personnel des écoles s'enchaînent. Pourtant, ça fait des mois que les parents du 11e travaillent sur des changements.
Toutes les écoles même se font mobiliser collectivement depuis octobre dernier auprès des élus, des services, des institutions. La liste continue de s'allonger semaine après semaine. On a encore de nouveaux cas de suspicion de faits graves à caractère sexuel qui nous sont remontés. Donc nous, dans les faits, dans nos écoles, dans la gestion de crise, on ne constate aucun changement réel.
Résultat, comme beaucoup d'autres parents, Lina paie une nounou aujourd'hui et ne laisse plus ses enfants au périscolaire.
Voilà l'enquête de Marie Bouéda à nos côtés pour ICI Paris-Île-de-France. Merci Marie. Éducation nationale encore dans la tourmente face aux menaces de suppression de postes. Jusqu'à 4000 enseignants en moins prévus par le budget. L'intersyndicale a donc lancé une semaine d'action avec une journée nationale de grève ce mardi. Entre 7% de grévistes recensés par le ministère, 25% pour les syndicats. À l'heure où la rentrée de septembre se prépare déjà, les organisations pointent les effectifs trop lourds, des fermetures de classes également. Et comme dans beaucoup de communes, à Mauches par exemple, dans le Haut-Rhin, le maire et les parents d'élèves ont décidé d'inscrire de nouvelles élèves à l'école menacées d'une fermeture de classe. Évidemment, ça se fait sur le ton de l'humour pour dénoncer un scandale. Il s'agit de 5 vaches qui figurent sur les listes pour l'année prochaine. Écoutez le maire José Chruot-Fenéguer.
On a à l'école élémentaire 66 élèves, ce qui correspond à 3 classes. On est dans les clous des critères de l'éducation nationale. Par contre, en maternelle, on a 30 élèves, parce qu'il y a eu un véritable creux cette année. On a vu arriver seulement 6 élèves en petite section de maternelle. Et là, donc, comme il nous manque 4 élèves, nous allons inscrire des génisses à l'école. On va remplir un dossier d'inscription pour Arlette, Abondance, Amandine, Abeille et Amsel. Généralement, les génisses préfèrent les pâturages aux salles de classe. Eh bien, on demande aux institutrices de faire l'école dehors. Il paraît que c'est très tendance actuellement. Voilà. On rigole, mais en fait, on est très fâchés.
Des propos recueillis pour ICI Alsace par Élise Ulata. L'école qui doit aussi montrer l'exemple face au tourbillon pernicieux des réseaux sociaux. Le Sénat examine aujourd'hui l'interdiction de ces réseaux aux moins de 15 ans. Et on va suivre la politique de la cité scolaire François Villon. Nous sommes à Paris. Le logiciel Pronote reste accessible aux parents, mais l'établissement est revenu au papier. Carnet de liaison et agenda pour ne pas inciter les élèves à aller régulièrement sur Internet. L'objectif, Sandrine Etoy-Andeg, à terme bien sûr, c'est de faire reculer l'âge du premier portable.
Avant d'entrer en sixième, Manon rêvait d'un portable.
Je suppliais mes parents pour avoir un smartphone, mais maintenant, avec les interventions du collège sur le danger d'Internet, je me suis dit peut-être que je vais grandir un peu pour en avoir un.
Pas de téléphone, au moins jusqu'à l'entrée en quatrième. Limiter le temps d'écran quotidien, c'est ce que préconise la charte du bien-être numérique de tous les collèges publics du 14e arrondissement de Paris. Avec une mesure phare proposée aux parents depuis la rentrée, couper l'accès au logiciel Pronote pour les 6e, comme Adèle et Dado.
Par exemple, tu dis à tes parents, je vais regarder Pronote, et en fait tu regardes une vidéo sur YouTube. Ça t'empêche de tout le temps regarder ton téléphone, comme ça t'es mieux concentré sur l'école.
Les élèves sont revenus au carnet de liaison, enrichi d'un agenda papier. Clémence Ababa, professeure d'histoire-géographie et cofondatrice de l'association Éducation numérique raisonnée.
Exactement, le bon vieux papier est réhabilité. On a dit stop justement à cette emprise du numérique sur nos élèves et sur nous les enseignants.
La proviseure de la cité scolaire François Villon, Lucie Pitiot, en convient. Si après quelques mois, le bilan est encourageant.
On a fait baisser la pression sur cette histoire de téléphone portable. Résultat, on en confisque beaucoup moins que les années précédentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce téléphone, il a changé d'usage et il se concentre désormais sur l'usage des réseaux sociaux en dehors du temps scolaire. Et ça, c'est la suite, en fait, du travail qu'il va falloir mener.
Ce que confirme Akila Lamassi, mère de 4 enfants de 9 à 15 ans et élue FCPE.
Ma fille qui est en 5e, c'est tout le temps. Est-ce que j'aurai un téléphone ? Je lui dis que tu auras un téléphone, un bigot comme il l'appelle, un téléphone à 9 touches.
un téléphone basique sans accès à Internet.
De l'usage encadré du portable à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, mesure souhaitée par le président de la République qui est donc débattue au Sénat ce mardi. À la une encore, cette histoire invraisemblable, celle d'un TGV au départ de Nice hier après-midi et qui n'est jamais arrivé à Paris. Le train est resté bloqué 8 heures à la sortie d'un tunnel à Marseille en raison d'un accident de personne vers 20 heures. Écoutez, Muriel Jordan, vous la connaissez, c'est l'une de nos chroniqueuses ici. Elle était à bord de ce train, donc l'une des passagères, elle raconte.
On a tous ressenti comme si le train traînait des cailloux, un truc un peu bizarre qui nous a tous interpellés et le train a freiné d'urgence. Alors c'était pas très brutal, mais on s'est arrêté tout de suite, donc sous ce tunnel, et ça n'a jamais redémarré jusqu'à 4h du matin. Donc on a été plongé dans le noir. Alors il y avait quand même de la lumière dans le train, bien sûr, très très peu de wifi, voire pas du tout, donc les gens ne pouvaient pas contacter leurs proches. Et on a eu des infos très très tard. On nous a d'abord dit qu'on avait heurté quelque chose. Et puis de fil en aiguille, ça a été la progression. Voilà, une heure après, on nous dit qu'on a heurté quelqu'un. Et puis ça a été crescendo. Donc on a heurté quelqu'un. Ensuite, la police est arrivée, mais très tard. Elle a mis vraiment, je ne sais plus combien d'heures à arriver. Les pompiers aussi. Et voilà, donc il y a eu la police judiciaire sur place. Donc voilà, une affaire semble-t-il judiciaire. On n'en sait pas plus. Il y a eu aussi tout autour du train, il relevait des traces diverses et variées.
Et voilà pour cette enquête sur cette mort tragique, laissant donc tous les passagers bloqués et sans nouvelles pendant plusieurs heures. Le TGV a finalement fait demi-tour pour s'arrêter en gare de Marseille. Et puis si vous êtes fan du compte du Gorafi, pastiche numérique du Figaro, qui depuis plus de 10 ans joue l'humour sur l'actualité, sachez que le Gorafi lance dès jeudi son édition papier, un mensuel de 16 pages avec les mêmes rubriques que sur le site, mais des contenus totalement inédits. C'est un pari audacieux à l'heure où les médias traditionnels se battent pour leur survie ou réinvestissent sur la presse en ligne, mais un pari qu'on souhaite au Gorafi de réussir. Il est 13h16.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Et dans Ma France, on s'invite à présent, et comme chaque jour, au fond, près de chez vous, et on fait l'inventaire gourmand et positif de notre patrimoine local. C'est un trésor qui nous rassemble, certes, mais dont l'État peut inquiéter les Français. De quel patrimoine parlons-nous et comment pouvons-nous devenir tous des défenseurs et des soutiens de ces œuvres, de ces bâtiments et de ces vestiges? Avec nous, Gaël Slimane. Bonjour Gaël, président de l'Institut de sondage Odoxa.
Bonjour Andy.
Bonjour à vous. Vous qui avez mené cette étude pour la fondation du patrimoine, sur le patrimoine de nos communes. D'abord, pour quelle raison cette fondation vous a confié cette enquête très intéressante?
Eh bien, justement, pour voir ce que vous venez de dire, Wendy, essayer de savoir où en était aujourd'hui l'opinion publique par rapport à ces sujets de patrimoine. Est-ce qu'on y était attaché? Est-ce qu'on était vigilant à ce sujet? Est-ce que c'était important pour nous? Vous savez, on pointe souvent l'importance légitime de la préoccupation pouvoir d'achat dans le cœur des Français. Est-ce que finalement, nos concitoyens ne pourraient pas se dire que tout ça, c'est superfétatoire, c'est inutile, et que les besoins prosaïques du quotidien sont plus importants que ces questions séculaires ou millénaires de patrimoine? Et la réponse est non, ça n'est pas du tout le cas. Ils sont attachés, évidemment, demandeurs de pouvoir d'achat, mais ils sont extrêmement attachés à leur patrimoine, et notamment dans l'ancrage le plus local, le plus communal qui soit.
Cet ancrage, on l'a étudié ensemble avec ICI et Odoxa, justement, pour montrer quelles priorités guidaient aussi le choix des électeurs au cœur des municipales. On a parlé d'insécurité, on a parlé d'accès aux soins, mais ce patrimoine, et c'est aussi la raison pour laquelle vous sortez cette enquête dans cette séquence municipale, vous avez aussi demandé aux habitants, aux administrés interrogés, ce qu'ils attendaient de leurs élus. Et là, les nouveaux maires sont en fonction pour justement défendre ce patrimoine, Gaël Slimane.
Ah oui, il y a une demande très forte à l'égard de leurs élus. Une fois qu'on a dit, je donne quelques chiffres quand même pour illustrer l'importance, la prégnance du sujet dans le cœur des Français, que 90% des Français estimaient que le patrimoine communal, il était important non seulement pour l'image du pays, mais aussi pour leur commune, que ça avait un impact d'abord dans le cœur des gens, dans leur enracinement local, mais aussi un impact économique, un impact touristique que de valoriser son patrimoine. Bah, le résultat, sans grande surprise, du coup, ils sont logiques, les Français, les trois quarts d'entre eux, veulent que les élus s'impliquent davantage pour défendre le patrimoine, parce que, On a, une fois que je vous ai dressé tout ce tableau idyllique, d'habitude quand on invite un sondeur, c'est plutôt pour apporter de mauvaises nouvelles. Là, c'est plutôt positif tout ce que je vous décris là. Mais il y a quand même un point négatif, c'est qu'on a un peu plus d'un Français sur deux, 54%, qui nous disent que dans leur commune, à côté de chez eux, ils ont le sentiment que certains monuments locaux sont menacés ou en passe de l'être. Et donc, il y a une attente aussi à l'égard des élus à ce sujet.
Avec la Fondation du patrimoine et votre institut de sondage Odoxa, vous avez demandé aussi aux Français de détailler ce qu'ils entendent par patrimoine local. Les églises arrivent nettement en tête des citations, devant les fontaines, les hôtels, les moulins, les kiosques, les gares, les cimetières, mais aussi les châteaux, les cathédrales, et pour 5% des sondés, les mairies, encore des chiffres, mais que je livre à l'un de nos invités qui est par le cœur et par l'action investi aussi comme gardien de cette mémoire patrimoniale. C'est vous, bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Bonjour, on est ravis Stéphane de vous entendre pour réagir aussi à cette réalité que nous venons d'égrener ici. D'abord que 90% des Français jugent le patrimoine communal important pour l'image de leur commune, mais aussi pour l'image de la France. Bon, ça vous rassure, ça vous émeut, j'imagine aussi.
Oui, ça me touche et je peux le vérifier sur le terrain en permanence. D'abord, 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Parce que les gens pensent toujours, quand on pense à patrimoine, à Versailles, Chambord, les grands châteaux. Mais en fait, le patrimoine, c'est du patrimoine vernaculaire, du patrimoine, du petit patrimoine souvent. Vous l'avez bien énoncé. Et les gens, ils sont très attachés. Pourquoi ? D'abord parce que ça dope l'économie locale. C'est-à-dire que c'est souvent la seule richesse d'un village, c'est de pouvoir montrer les trésors qui sont dans sa commune. Ensuite, ça crée des relations intergénérationnelles. Il y a beaucoup d'associations, je pense à tous les bénévoles qui partout en France, eh bien, se mobilisent pour sauver le patrimoine, des associations de défense, de réveil, ou d'une église, ou d'un four à pain, ou d'un moulin. Et je les remercie parce que ce sont eux qui font remonter, qui me font remonter l'information sur www.missionberne.fr et grâce à cela, on a déjà sauvé 1057 sites et monuments un peu partout en France, et c'est pas que des grands châteaux ou des grandes églises, mais c'est vrai, vous l'avez rappelé Wendy, c'est beaucoup de petites églises de nos campagnes. Bien parce sûr. Qu'on trouve, et c'est là que c'était un coup de gueule que je pousse en permanence, on trouve 900 millions pour Notre-Dame de Paris, mais on n'est pas fichu de trouver 1% de ces sommes pour des églises de nos campagnes qui ont 1000 ans d'histoire, qui sont romanes, gothiques, peu importe, mais qui n'ont pas démérité non plus. Et c'est ça qui est un peu injuste. Il y en a toujours pour Paris et il n'y en a pas pour les communes rurales.
Et c'est une mission que vous portez, Stéphane Bern, identifier ce patrimoine vétuste ou en danger et le sauver. Stéphane, Gaël Sliman le disait très bien. Alors, on préserve ce faisant la vitalité d'un village, son histoire, son ancrage. Les Français, vous le disiez, comptent davantage sur leur mère sur le sujet. Et compte sur les générations à venir. Ça, c'est aussi présent dans cette enquête pour la Fondation du patrimoine.
Oui, qui dit patrimoine dit qu'il y a une question de transmission. Oui. Et donc, ça suppose qu'il y a une grande importance à ce qu'on puisse transmettre, passer le flambeau aux générations. Stéphane Bern le disait il y a un instant, dans ce qui tourne autour du patrimoine, il y a des aspects qui sont très locaux, y compris, on le voit dans le sondage, dans les plus petites communes rurales, on est très attaché à son patrimoine et très inquiet de le voir dépérir. Et puis, il l'évoquait aussi, il y a cet aspect générationnel, avec des jeunes qui, contrairement peut-être aux idées reçues, suivent, s'intéressent, veulent en savoir plus sur leur patrimoine. Je vous donne un exemple d'un des chiffres du sondage. On a les deux tiers des Français qui nous disent qu'ils connaissent l'histoire et les origines du patrimoine de leur commune. Ça veut dire qu'il y a un tiers qui a besoin de plus d'informations. Donc c'est le travail notamment de Stéphane Bern et d'autres. Mais quand on regarde le détail, bah, bien sûr, les plus âgés, les seniors sont mieux au courant, mieux informés, hein, les trois quarts d'entre eux le disent, mais on a quand même 63% des jeunes qui nous disent qu'ils s'intéressent et qu'ils suivent tout cela. Et puis, vous l'avez dit, Wendy, il y a une demande à ce que les jeunes générations soient davantage sensibilisées à l'importance du patrimoine local. Ça, 8 Français sur 10 l'attendent, et ça fait partie aussi des missions transversales du gouvernement et peut-être de Stéphane Bern.
Bien sûr, Stéphane, vous qui avez été, royalement réélu conseiller municipal dans votre petite commune de Thiron-Gardais en Eure-et-Loire. C'est important justement cette sensibilisation des générations à venir, être fier de son patrimoine et le connaître.
Tout est là. Mais tout est là, Wendy, c'est-à-dire que c'est la transmission, on est au cœur. C'est ça le patrimoine, transmettre aux générations qui viennent dans un meilleur état que celui dans lequel on a trouvé ce patrimoine. Je suis le parrain des jeunes, en tout cas des enfants du patrimoine, oui. Et j'essaye aussi de faire une chose, c'est de transmettre avec, vous savez, l'association Rempart, l'association Acta Vista. Il y a énormément de jeunes qui s'engagent pour des chantiers l'été de restauration du patrimoine.
Absolument.
Et ils sont nombreux bénévoles. Ce qui est compliqué, je vais vous dire, dans les communes, et je le vois au conseil municipal, c'est que vous avez le sentiment parfois, par rapport aux autres, que vous rabâchez, ah, il faut pour l'église, ah, il y en a que pour l'église, me disent certains autres conseillers. Et alors vous leur dites, oui, mais c'est important. Mais il y a tellement d'autres choses. Ils veulent du transport scolaire, les cantines, le stade de foot, et c'est vrai que l'enjeu pour un maire, ce n'est plus tellement l'église du fait de la décristianisation du pays. Je n'ai pas à porter un jugement là-dessus, je le constate. Et donc c'est vrai que ce n'est plus un enjeu électoral, l'église. Et donc avec tous les défenseurs du patrimoine, on est là à dire, mais que serait notre village s'il n'y avait plus son église, parce que c'est son histoire. Et quand les langues se taisent parce qu'on n'apprend plus l'histoire, les pierres nous parlent encore et nous racontent cette histoire, et le racontent aux plus jeunes.
Ouais, c'est très beau,
c'est une jolie formule. Et il y a aussi une formule plus prosaïque, peut-être, Stéphane. Donc c'est Gaël Slimane qui parle. Il y a peut-être une formule plus prosaïque à dire aux élus du conseil municipal, aux autres élus, et que nous disent les Français dans le sondage, c'est que le patrimoine, l'importance du patrimoine pour nos communes, il est aussi économique. Je vous donne juste deux chiffres. Source de retombées économiques et touristiques pour la commune. 79% des Français le pensent, et ce, quelles que soient les communes, parce qu'il y a du patrimoine, Stéphane l'a dit, dans toutes les communes. Et deuxièmement, représente des dépenses inutiles. On n'a pas été agiographique dans ce sondage, on a testé des items négatifs. Est-ce que, finalement, les dépenses de patrimoine, ça représente des dépenses inutiles aujourd'hui? Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que c'est élitiste? Réponse, pour plus des trois quarts des personnes interrogées, non, ça n'est pas vrai. Donc, c'est ce reproche qui peut être fait régulièrement, il peut être battu en brèche en disant, c'est aussi, au-delà de la transmission et de l'histoire et des valeurs, c'est aussi de l'argent qui rentre dans les communes, et c'est pas des dépenses inutiles.
C'est rassurant, même si en effet il y a ce budget à gérer, avec des travaux qu'on remet souvent à plus tard et les chantiers qui s'alourdissent. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire réagir. Nous sommes dans une petite commune de la Creuse, à Chenier, où l'église du XIIe siècle, classée monument historique, est très abîmée, notamment son clocher. Et celui qui fut maire depuis 40 ans, Gilles Godon, qui a souhaité ne pas se représenter cette année, se félicite qu'enfin, 40 ans après, des travaux continuent à sauver ce patrimoine local à la faveur d'un don. Un don anonyme qui a relancé le dossier.
Ça fait longtemps qu'on en parle, déjà depuis les premières études. Et pour des raisons financières, en fait, celles qu'on a rencontrées il y a 20 ans, on les aurait retrouvées là, pour le projet tel qu'il est. On a eu un don. Et sans ce don, on n'aurait pas pu faire les travaux du clocher-porche. Ce clocher-porche, en fait, qui était muré, le prêtre faisait des cours de catéchisme. Donc, moi, je suis un enfant du pays, et je suis venu au catéchisme dans cette église. Ça fait plaisir de voir qu'elle a toujours un intérêt pour les gens, et puis qu'on va pouvoir effectivement la remettre comme elle était. Ce jour-là, ce sera une belle journée. Les générations qui vont venir puissent effectivement le voir. Parce qu'à un moment, si on laisse tout se délabrer, on n'a plus rien, quoi. On insiste sur cette volonté de pouvoir conserver l'église, parce que d'un plus, elle est belle. Donc, chaque fois qu'on pourra intervenir, on le fera.
Voilà un maire, Stéphane Bern, qui s'est battu des décennies durant et qui est arrivé.
Beaucoup de maires se battent, oui. Beaucoup. Mais c'est vrai que je les encourage, en donnant les arguments de Gaël aussi, c'est vrai que économiquement, puisqu'on a aujourd'hui l'âme de comptable, eh bien, le patrimoine n'est pas un luxe, mais une nécessité, et il rapporte plus qu'il ne coûte. Et surtout, une chose, c'est que plus on attend pour faire des travaux, plus il coûte cher.
Voilà.
C'est comme quand vous êtes dans une copropriété, il faut entretenir le patrimoine, il ne faut pas attendre qu'il se délabre.
Merci, cher Stéphane Bern, avec cette mission patrimoine, cette mission Bern aussi, qui vous a été confiée et qui se démocratise vraiment et qui inclut les Français. Sondage passionnant pour votre institut au docteur ça que vous présidez, cher Gaël Slimane, avec la Fondation du patrimoine. 61% des Français s'engagent ou se disent prêts à agir pour préserver le patrimoine. C'est une note positive qui permet aussi de porter une jolie conclusion à cette enquête. Merci Gaël.
Merci
Wendy. Stéphane. Et merci à vous tous.
Ici partenaire, Véronique, le documentaire événement de France Télévisions sur Véronique Sanson. Je n'ai besoin de personne. Une
une jeune fille sage, devenue voix inoubliable. De son premier amour, Michel Berger, à l'Amérique, elle a tout quitté pour suivre sa musique. Ce film d'archives inédites et rares raconte la vie de Véronique Sanson à travers ses mots et ses chansons. Un portrait intime, bouleversant, d'une artiste libre. Véronique, le documentaire événement sur Véronique Sanson. Vendredi à 21h10 sur France 3 et sur France.tv. Un événement ici.
Alors, attendez, je vais souffler, mais avant, je dois faire mon dépistage du cancer colorectal. Je reviens tout de suite. Vous bougez pas, hein?
Vous n'êtes pas obligé de faire votre dépistage le jour de votre anniversaire. Mais dès 50 ans, faites-le tous les deux ans, chez vous, avant tout symptôme. C'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal à un stade précoce. Rendez-vous sur jefaismondépistage.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
Groupama. Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour les proues.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non, Cerise. Je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie. Et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Ici Mayenne, tous les jours à vos côtés.
Vos infos pratiques en une minute, les mercredis 15 et 22 avril, le Zoom de Laval propose un atelier familial bientôt ado, destiné aux parents et aux enfants de 10 à 12 ans. Des médiatrices scientifiques y abordent sans tabou et avec bienveillance les différences biologiques entre les filles et les garçons, et puis le processus de reproduction chez l'être humain. Comptez 6 euros par personne sur inscription. 38 jeunes du service civique se mobilisent pour l'environnement. Ils organisent un événement intitulé « Je peux pas, j'ai climat ». Ce sera le jeudi 2 avril, place du 11 novembre à Laval. Au programme, de nombreux ateliers proposés par différents partenaires, comme par exemple la ville de Laval, Synergie, Place au vélo ou encore Zéro déchet. Et puis la maison du don de Laval élargit ses horaires d'ouverture pour mieux s'adapter aux disponibilités des donneurs de sang et de plasma. Vous pouvez les consulter sur le site de la maison du don. Pensez à prendre rendez-vous directement sur le site efs.sante.fr ou via l'application Don du sang. Allez, rendez-vous dans une heure pour vos prochaines infos pratiques avec Ici Mayenne.
Ici Mayenne.
Actu local, musique et bonne humeur.
fort que d'être aimé, Daniel Balavoine. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, ça y est, c'est mardi et ça nous fait plaisir d'être avec vous. Moi, j'avais envie de commencer directement par un cadeau, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez gagner votre week-end au Festival d'Humour Les Andenneries à Bagnoles-de-l'Orne, c'est en Normandie. Ce sera le vendredi 10 et le samedi 11 avril. Petit week-end pour deux, tout frais payés avec bien sûr les spectacles, les nuits d'hébergement et puis les repas. Alors pour jouer, il faut aller sur notre site ici.fr et puis vous notez ce mot de passe, Zygomatic. Vous le notez, le tirage au sort sera donc le vendredi 3 avril entre 17 et 19h. Je vous souhaite bonne chance. Nous on va continuer en musique. Bruno Mars, bon après-midi.
ça marche. La Mayenne est un département dynamique. Claire Martin.
La Mayenne est le quatrième département de France en production laitière et c'est pourquoi l'entreprise Animat 53 Laval marche très bien. Elle répond à des demandes de plus en plus fortes des agriculteurs.
Alors, Animat 53, on est aujourd'hui une entreprise qui vend, qui entretient, qui suit les installations de traite. On est spécialisé dans l'élevage laitier, particulièrement depuis quelques années sur la robotisation notamment.
Et Animat 53 suit la ferme dans son ensemble.
C'est la traite, c'est la gestion des effluents, c'est l'apport en aliments, c'est le confort aussi des éleveurs. Et aujourd'hui, de plus en plus de confort animal aussi.
Une entreprise née en Mayenne avec une équipe mayenno-mayennaise et qui marche bien.
On estime aujourd'hui quasiment un éleveur sur deux, en Mayenne en tout cas, est client Animat. Donc on travaille aujourd'hui sur le sud de la Mayenne, sur tout l'ouest de la Sarthe et également une part sur le sud-est de l'Ille-et-Vilaine. À titre d'info, moi je suis arrivé en 2012, on était 12, aujourd'hui on est 62. Sur quatre sites.
En effet, l'entreprise est à l'écoute des besoins de ses clients et revend des produits de Laval avec ce besoin, par exemple, de remplacer les contraintes physiques de la traite par des robots de traite. Mais aujourd'hui, ils vont encore plus loin.
Si je vous parle de prédiction dans l'aspect maladie, par exemple, de Laval a sa propre intelligence artificielle. Et aujourd'hui, que l'on soit en salle de traite ou en robot de traite, l'analyse du comportement et la comparaison avec toutes les autres vaches, par exemple, dans le monde, on va être capable aujourd'hui de déterminer en amont une maladie qui est en train d'arriver.
Alors la force d'Animat 53, c'est à la fois la passion, la veille évidemment dans le domaine, et puis leur ancienneté sur le territoire.
Et on met aussi nos éleveurs un petit peu au cœur du système, parce que sans eux, on n'est plus là. Sans nous, il y a aussi des chances qu'ils ne soient plus là. Donc c'est vraiment du donnant-donnant, et le fait d'apporter du service, bah, ça apporte un outil qui fonctionne bien, qui fait évoluer nos éleveurs et qui fait qu'on les accompagne en faisant évoluer leur exploitation.
Et ce qui fait que tout le monde est gagnant-gagnant. Alors, faut savoir aussi que chez Animat 53, il y a très peu de turnover. D'ailleurs, l'entreprise continue sur cette belle lancée et recherche en ce moment de nouveaux salariés.
On forme en interne. Et j'ai envie de dire, à la base, celui qui a envie de travailler, celui qui a envie d'apprendre, celui ou celle d'ailleurs, on aura la capacité de le former sur le terrain.
Alors si vous aussi, vous voulez participer au bien-être de ces belles dames et de ces agriculteurs, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner directement auprès de l'entreprise Animat 53.
Ici, Mayenne. Thank you.
Ici.
Ici, Mayenne.
Pour vous accompagner de Jean-Louis Aubert avec Ici Mayenne. La playlist continue, I'm so excited pour vous mettre en joie, de bonne humeur aujourd'hui avec les Pointer Sisters, c'est juste après ça.
Ici Mayenne soutient la scène mayonnaise. Écoutez, voici l'un de nos coups de cœur.
Archimède avec Vent Debout.
Combien de fracas, de querelles, combien de clashs et d'étincelles, combien de pugilas et d'épicales caras.
Deux fois nommé aux Victoires de la Musique, le groupe mayennais Archimède prépare actuellement un nouvel album.
On ne s'embrouillait que pour le plaisir de faire l'amour après coup.
En attendant sa sortie, voici les deux frangins Fred et Nico avec un extrait de leur dernier opus.
C'est bien fait.
Et un titre toujours très pop aux refrains entraînants. C'était Archimède avec Vent Debout.
Découvrez les artistes mayennais avec Ici Mayenne.
Visio Confucius, tu vois ? Toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Ici Mayenne. Dès votre réveil,
actu locale, musique et bonne humeur.
Cœur de la Mayenne, ici Mayenne.
Vous écoutez ici Mayenne.